Bonsoir à tous et bienvenue sur Archéociné, le podcast qui déterre les pépites du grand écran. Je m'appelle Boss.
Salut, moi c'est Blood.
Et moi c'est Monsieur Freddy.
Et on a choisi ce soir à vous présenter un film qui est Certains l'aiment chaud. Et c'est Monsieur Freddy qui va nous présenter ça.
Alors tu pourrais peut-être envoyer le générique.
Ouais.
Pour le mettre en bouche.
C'est ce que je vais faire. Allez.
Donc on est parti pour 2 heures de comédie sur un film de Billy Wilder qui s'intitule « Some like it hot, certains l'aiment chaud » qui devait s'appeler au départ « Pas ce soir, Joséphine, not tonight, Joséphine » et que finalement, je vous expliquerai ça, pourquoi il s'est pas nommé comme ça. Donc pour le moment, on va essayer de voir un peu ce que nous réserve cette pépite de l'âge d'or d'Hollywood. Quand je dis l'âge d'or, c'est vraiment la fin, puisqu'on est en 59. C'est le 16e film de Billy Wilder, produit par Mirisch Corp, qui a produit pas mal de westerns, ainsi que Billy Wilder lui-même. Billy Wilder, le scénariste aussi également du film, a une trajectoire un peu comme Fritz Lang, c'est-à-dire que c'est un petit gars qui est né dans l'Empire Autriche-Hongrie à l'époque, à la grande époque du Saint-Empire, et qui a eu la bonne idée d'aller en Pologne, où en fait, qu'est-ce que je raconte ? Il a été en Allemagne, par contre, pardon. Et en fait, il a eu la même trajectoire que Fritz Lang, c'est-à-dire que l'arrivée du nazisme l'a fait fuir, et il est parti donc en France faire un film comme Fritz Lang. Qui s'appelle, j'ai oublié le titre d'ailleurs, vous connaissez, non ? Mauvaise graine, avec Daniel Darieux en 1933.
Non, ça me dit rien.
Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a fait pas mal de choses hein, dans les années 40. Il a fait 6 films, dont un avec Marlène Dietrich quand même, qui s'appelle, il me semble, alors je sais pas si vous l'avez, La scandaleuse de Berlin.
Non. Je connais pas du tout.
Il a fait quoi d'autre ? Il a fait, dans les années 50, il a fait 9 films, dont un aussi avec Marlène Dietrich, et donc 2 avec Marilyn Monroe, donc, en 55, 7 ans de réflexion, et en 59, Certains l'aiment chaud.
Qui donc, était voilà. Le premier film de Marilyn, je crois. 7 ans de réflexion.
Ah non, comment ça, le premier film avec de Marilyn sous la direction de Billy Wilder.
Oui,
tout à fait. Mais ils en ont fait que 2 ensemble. Hein. C'était trop compliqué à gérer, Marilyn.
Oui.
Donc, après, il a fait quoi dans les années 60 ? Il a fait 6 films. Dans les années 70, il a fait 3 films, dont un en France. Et en 81, il a fait son dernier film. Donc voilà, il a fait quand même pas mal de choses. C'est un grand, grand, grand cinéaste. Et donc pour moi c'est vraiment la comédie que j'emmènerai sur une île déserte, c'est-à-dire que bon, franchement c'est on peut pas rêver mieux quoi, le casting, l'histoire, la mise en scène. Alors déjà j'aimerais qu'on fasse un peu le focus sur le format du film, donc en noir et blanc. Alors j'imagine que tu as des petites anecdotes, pourquoi il est en noir et blanc ?
Noir et blanc parce que apparemment Marilyn Monroe voulait que le film soit en couleur. Mais Billy Wilder, il a réussi à la convaincre de tourner en noir et blanc, parce qu'en fait, les maquillages portés par Tony Curtis et Jack Lemmon rendaient leur visage légèrement verdâtre. Donc, c'est vrai qu'en couleur, ça ne l'aurait pas fait. Donc, il a réussi à faire ça en noir et blanc.
Donc, en effet, c'est vrai que là, c'est quand même un noir et blanc somptueux. Moi, je dirais que la photo, la directeur de la photo, c'est Charles Lang, c'est pas n'importe qui. Donc, le noir et blanc est vraiment, on va dire, satiné avec un éclairage bien particulier, qui est pour moi aussi un hommage au film noir. C'est vraiment les films dans lesquels Billy Wilder a débuté. Donc, je posais référence à leur Assurance sur la mort, mais il y en a d'autres. Hein. Et donc, du coup, là, on se retrouve avec un duo, donc Tony Curtis et Jack Lemmon. Donc un duo assez ambigu d'ailleurs, on y reviendra. Un peu à l'instar de ce qu'avait fait aussi Bill Wilder, il avait fait un film qui s'appelle La vie privée de Sherlock Holmes. Où en fait, là aussi, on avait un peu un duo un peu ambigu. Surtout sur le personnage de Sherlock Holmes. Mm-hmm. Bref. Et donc là, on se retrouve donc avec une Marilyn au milieu. Dont c'est de son deuxième film avec Billy Wilder. Et on est en 59. Marilyn, il lui reste 3 ans à vivre. Et voilà, quoi. En plus, au cours du tournage, on apprend qu'elle est enceinte. D'accord. Donc voilà, on essaye de cacher un peu tout ça. Donc le chef-op, il fait un peu comme il peut, ce qui n'est pas évident. Surtout quand on a la fameuse chanson, la fameuse scène où elle chante « I wanna be loved by you ». Mmh. Là, en effet, on se rend compte que c'est compliqué de filmer Marilyn. Donc voilà. Et sinon, à part ça, Marilyn est donc mariée à Arthur Miller. Et donc, en fait, pour beaucoup de gens, Marilyn incarne la femme, un peu comme Sherlock Holmes pour Irene Adler. Donc voilà. Alors ça, il faut quand même, je vous raconte un truc.
C'était la pin-up hein, à l'époque. Hein.
Ah ouais, mais c'était quelque chose de terrible, parce que quand tu vois Marilyn sur grand écran, nous on n'a pas eu la chance de voir Marilyn sur grand écran, mais on peut imaginer, ça devait être quelque chose. Hein. Apparemment, ça devait plus ressembler à un bonbon sucré, mais bon, passons. Non, le truc, c'est que Marilyn, j'ai appris ça il y a pas très longtemps, je sais pas si vous connaissez Ella Fitzgerald, une grande chanteuse de jazz, puisque là,
ouais, je connais.
C'est de jazz dont il s'agit. Mmh. En fait, Marilyn a lancé la carrière d'Ella Fitzgerald en allant voir les patrons de boîtes qui refusaient de la produire et en leur proposant un marché en disant voilà, je me mets au premier rang, vous allez avoir de la clientèle, mais à condition qu'Ella puisse chanter son répertoire. Et c'est comme ça qu'Ella a été connue du public blanc grâce à Marilyn. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite anecdote. Il y a eu tellement de choses décrit sur Marilyn que j'ai pas envie d'en rajouter. Il y a eu plus de 1000 ouvrages dessus. Chacun y va de sa petite interprétation. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que Marilyn Monroe, comme je dis, c'est une pin-up, mais pas que. Pour moi, elle a créé un personnage, Marilyn Monroe, dont elle a jamais réussi à se débarrasser. Et c'est ce qui a provoqué sa chute. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, je sais pas. Je suis pas très calé sur le sujet. Mais tout ce que j'ai pu voir aussi, pour raconter une petite anecdote sur Marilyn et sur le film, apparemment, ça a été un véritable casse-tête lors du tournage parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à se souvenir des répliques. Et donc, dans certains cas, il a fallu même 59 prises pour pouvoir tourner une scène. Et donc, il fallait qu'il planque à droite, à gauche, dans le décor, les répliques de Marilyn écrites sur des morceaux de carton ou sur des ardoises.
Oui, donc, mais bon, d'accord. Mais bon, faut dire que c'est vrai que la petite jeune femme, on va dire, la petite jeune fille, j'avais envie de dire même, était complètement perdue à l'époque. Elle avait donc un mariage qui allait à volo, quoi, qui battait de l'aile. Mmh. Et du coup, qui se retrouvait enceinte au cours du tournage et qui avait des gros problèmes de dépendance de choses et d'autres. Et d'ailleurs, dans le film, à un moment donné, on voit bien qu'elle a un regard assez compliqué à filmer. D'ailleurs, je crois que c'est dans son dernier film qu'elle n'a pas pu terminer. Je crois que c'est, alors attends, si je me rappelle bien, c'est quelque chose va craquer. Alors en anglais, c'est something got to give ou un plan comme ça. Et donc là, elle était tellement shootée qu'on pouvait difficilement la filmer, quoi. Et même déjà dans l'hémisphère, ça a commencé, donc qui est son dernier film, on va dire.
Elle est désaxée. Tournée.
Voilà, elle est désaxée, tournée en intégralité, quoi. Mm-hmm. Donc là, juste avant, elle avait fait Le Milliardaire où elle a eu une liaison avec Yves Montand. Mmh. Mais sinon, bon, c'est vrai que on sent le déclin, quoi. C'est compliqué pour elle. Donc après, pour revenir au film, pour moi, c'est vraiment le film qui me fait penser à, on va dire, au Code Eyes. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Code Eyes.
Si, si.
la censure à l'époque était terrible, hein, dans les années 30, à partir de 34 jusqu'à fin des années 60, hein, parce que c'est là, ça. On arrive à la fin de l'âge d'or d'Hollywood.
Apparemment, il y avait un double sens sur le titre déjà.
Ouais, alors l'histoire du titre. En effet, au départ, donc c'était pas ce soir Joséphine, puisqu'en fait Joséphine c'est Joe, hein, c'est Tony Curtis. Mm-hmm. Et Jack Lemmon c'est Jerry qui s'appelle en fait, qui veut s'appeler Géraldine, mais qu'après il change d'avis. Il se dit bah finalement j'ai jamais voulu m'appeler Joséphine, je préfère m'appeler Daphné.
C'est ça. Donc
déjà il commence à glisser tout doucement, on va dire de l'autre côté. Mm-hmm. Et là en fait. Le truc, c'est que Certain Homme Show, en effet, fait référence à un autre type de film qui, à l'époque, avait été tourné avant et qui a été racheté par les studios. Du coup, ils ont pu récupérer ce titre, qui fait référence, effectivement, à la musique de jazz.
C'est ça.
Et donc, voilà. Donc, pour revenir au code Eyes, donc, c'est vraiment... le code Eyes, c'est un code de censure où, à l'époque, on pouvait... pas parler de choses comme ouvertement comme l'homosexualité à l'écran, c'était compliqué. Donc il fallait trouver des allusions, il fallait être plus malin. Voilà. Et donc en fait ce film pour moi c'est vraiment c'est l'illustration parfaite d'un film très malin où en fait tout est en faux semblant, en trompe-l'œil, en miroir. Rien que le début déjà tu as le film pendant 4 minutes n'a aucun dialogue, fait penser beaucoup à Rio Bravo. Où en fait t'as des plans. Alors t'as pour l'exposition t'as trois plans, ça suffit. Hein. T'as un corbillard, un cercueil, la police, des coups de feu, oui. L'alcool, la prohibition. On est à Chicago en 1929. Les deux musiciens sont témoins d'un meurtre qui a défrayé la chronique à l'époque parce que c'était Al Capone qui régnait en maître sur Chicago et qui avait décidé de régler ses comptes avec ses copains. D'où le massacre de la Saint-Valentin, dont fait référence le film. Donc du coup, là on est en pleine prohibition. Donc Marilyn, j'y reviens par rapport au Bourbon où elle planque sa petite flasque, où elle dit les gens disent que je suis alcoolique, mais c'est pas vrai. Je peux m'arrêter quand je veux, mais quand je veux pas. Voilà. Et sinon, pour poursuivre un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'en effet, ce film est bourré de répliques terribles. Moi, je peux pas m'empêcher de. Enfin, il y a plein de dialogues hallucinants. Enfin, je pense que c'est pas la peine de les énumérer. Je préférais vous laisser la surprise. C'est plus sympa.
Non, faut le regarder.
Voilà. Non, il faut vraiment y aller, quoi. Et c'est vrai que c'est une comédie. C'est compliqué une comédie de 2 heures parce qu'il faut suivre. Il y a un tempo. Il y a vraiment. Il y a du rythme.
Il y a du suspense.
Et le film est monté comme une partition musicale, en fait. C'est ça qui est intéressant. Mmh. Quoi. Et du coup, ça fait écho à plein de choses. Donc, pour revenir à la petite histoire, il y a les mafieux qui sont... dont le chef mafieux de Chicago est interprété par George Raft, qui était le méchant dans Scarface, et dont tu as certainement des choses à nous dire, Bruce, à ce propos.
Oui, à un moment donné, dans le film... On a justement le petit jeune qui s'amuse à faire sauter une pièce de monnaie dans sa main. Et justement, il y a l'acteur qui joue donc Scarface dans son film précédent. Il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ? T'essayes de m'imiter ?»
Voilà, donc en fait,
c'était un petit clin d'œil pour les cinéphiles à l'époque.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est le fils de Edward G. Robinson.
C'est ça.
Et George Robinson, c'était le pire ennemi de George Raft parce que Billy Wilder le voulait dans son film, mais comme ils ont eu un petit accrochage à un film précédent, il n'a pas voulu. Donc du coup, ils ont pris son fils pour jouer son rôle. Voilà, donc pour la petite histoire, donc Joe, Joséphine, Géraldine, Daphné s'embarquent comme ça pour éviter les mafieux à se travestir. Et le truc, c'est que... Jack Lemmon commence à prendre vraiment goût au travestissement. Et du coup, il décide de changer de nom en disant, Géraldine, moi, ça me plaît pas, j'ai jamais voulu m'appeler Géraldine, je veux m'appeler Daphné. Voilà. Et du coup, son pote, Tony Curtis, il comprend pas franchement pourquoi il a décidé de changer de nom, enfin, et là, il s'aperçoit qu'en fait, il commence à dévier, mais franchement, quoi, à tel point qu'à un moment donné, quand il se rend compte que il a un ticket avec un vrai milliardaire, il lui propose un marché. Moi, je vais me faire un petit plan, une petite sortie avec Marilyn sur le yacht. Pendant ce temps-là, tu vas occuper le petit milliardaire dont j'ai oublié le nom. Et là, en fait, le petit milliardaire l'avait repéré. Hein, quand ils arrivent en Floride, donc de suite, on se demande si en effet il est dupe ou il est pas dupe. Alors vas-y.
Le milliardaire, c'est son nom d'acteur, c'est Joe E. Brown, et en fait là, il interprète le rôle de Osgood Fielding III.
C'est ça. Ah, et le nom de ce bateau, c'est Cendrillon, je crois, non? Deux.
Et il me semble.
D'ailleurs, pour moi, le film fait référence. Enfin, pour moi, c'est une variante de Cendrillon. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça.
Il ramasse sa chaussure au début, il lui rend.
Oui, il y a exactement. Jerry qui perd sa chaussure, et justement, c'est Osgood qui lui ramasse et qui lui remet comme Cendrillon.
Et tout est comme ça. Il y a plein de plans sur les chaussures. Tu vois, jusqu'au méchant George Raft avec ses guêtres. Et tout est axé là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, là, c'est chacun va trouver chaussure à son pied. Et c'est comme Cendrillon, chacun va se transformer, quoi. Donc voilà. Et donc, effectivement, j'en étais où, du coup? Voilà. En effet, moi, j'ai noté des petits trucs comme ça. Alors après, on pense qu'on veut, hein, mais. Comment s'appelle au début Tony Curtis veut parier sur un chien l'argent qu'ils vont gagner dans peu d'argent qu'ils vont gagner là
les courses de livrier
voilà ouais. Lui, il veut vraiment investir entre guillemets sur une chaussure, pas une chaussure hein, mais une chaussure où en fait on lui dit ce chien va gagner, il a 10 contre 1, il s'appelle Grease Lightning, parce que forcément, je l'ai vu en VO, mm-hmm. Je sais pas ce que dit en l'AVF. Et ce Grease Lightning, bizarrement, moi, ça m'a fait penser à Grease. La chanson de John Travolta, où ils retapent la voiture, là.
Mais ça, c'est bien plus tard, ça.
Oui, non, mais pour moi, ça fait écho, puisqu'en fait, là encore, dans Grease, on voit très bien que chacun essaie de jouer à un personnage qui est différent pour pouvoir aller vers l'autre. Non, ça vous dit rien?
Non.
Ça
fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu.
Bref. Et sinon, j'avais noté autre chose aussi, c'est Kowalski, parce que c'est le nom en fait de Marilyn, Sugar Cane dans le film. Mais oui. Sugar Cane, en fait, c'est un diminutif. Et, en fait, son vrai nom, c'est elle est polonaise. Elle s'appelle Kowalski. Kowalski. Moi, ça fait écho à R, la comédie musicale R de Miloš Forman, où en fait, là encore, le Kowalski va être obligé de changer de vêtements, d'attitude, de look pour pouvoir être ce qu'il n'est pas. Mmh. Et donc, ça fait écho de tout ça. Alors, je ne sais pas si, en effet, il y a eu des influences. Moi, je vois beaucoup aussi l'influence avec la série crypto-gay Les Mystères de l'Ouest. Où en effet, il y a deux compères dans un train. Donc, ça, j'y ai pensé fortement.
Oui, c'est les années 60 après.
Où en fait, tu avais beaucoup de travestissements. Gordon se travestissait. Oui, c'est les années 60. Donc, à mon avis, c'est pas innocent.
Ouais. Et on retourne encore une fois en plein dans le code Hays.
Voilà.
La petite anecdote sur Kowalski, en fait, tu peux pas la faire en français parce que Marilyn s'appelle Alouette.
Oui, donc, oui, c'est sûr que. Mais bon. Enfin, en tant que cinéphile, ça m'est difficile de voir les films en version française. Je trouve que la voix de Marilyn est aussi belle que sa voix chantée.
Encore une fois, on en vient, tu sais, avec les fameuses adaptations françaises, ou aussi bien pour les noms de films que les noms des personnages sont traduits, mais pas correctement. Parce que là, ils auraient pu garder son nom Sugar Cane, ça passait. Hein. Mais bon,
ouais, il fut un temps où... Ouais. On francisait tout, forcément.
Bah voilà.
Et encore, on a du bol. Je ne sais pas, mais j'imagine que dans la version française, ils ont conservé la voix de Marilyn, parce qu'elle aurait très bien pu être doublée.
Dans les chants, non, c'est elle qui chante.
Oui, mais on a vu des fois des films où les chants étaient doublés. Hein.
Je me rappelle. Dans Mary Poppins, par exemple, c'est doublé les chants.
Oui, tout à fait, oui. Mais là, ça s'adresse plus à un public enfantin, donc, alors que c'est quand même dommage, puisque on sait très bien que plus jeune t'apprends, mieux c'est. Les langues. Bref. Tout ça pour dire, moi, les deux heures, franchement, je les ai pas vues passer, je me régale à chaque fois, et je peux dire que, je découvre toujours des trucs, et là, je me suis dit, tiens, bizarrement, à la fin, la troisième chanson de Marilyn du film, elle chante trois chansons, la troisième, en fait, se termine comme un peu comme dans La rivière sans retour. Donc, elle est allongée sur un piano avec une chanson un peu bluesy mentale, tu vois, et ça fait référence, ça fait écho à La rivière sans retour avec River of No Return. Donc, je vous invite à voir tous ces films-là, La rivière sans retour, tout ce que j'ai cité, ça peut être intéressant. Maintenant, j'ai vu deux reportages sur Marilyn qui sont très très intéressants, dont un qui est vraiment pour moi, on va dire, incontournable, c'est Dernière séance de Patrick Jeudy. C'est un documentaire qui date, il a 10 ans. Et franchement, c'est les enregistrements de Marilyn pour son dernier psychiatre, Grinson. Voilà. Et c'est vraiment un documentaire fabuleux. Je vous invite tous à le voir. Après, que dire d'autre de cette comédie géniale? Je vous laisse me dire un peu ce que vous en avez pensé.
Si tu veux, en parlant de... Tu parles de Marilyn, je peux te passer un petit extrait issu du film où justement, il est fait propos de Marilyn. On l'écoute.
Regarde ça! Oh, ce que c'est beau à voir! On dirait qu'elle a des ressorts partout. Oh, ces filles doivent avoir un moteur flottant, je pense. C'est un sexe tout à fait différent.
Et de quoi as-tu peur? Personne ne te demande d'avoir un bébé. Il s'agit de s'éloigner. Une fois en Floride, on enverra promener ses vêtements.
Joe, je t'aurais prévenu. Désormais, je te laisserai plus m'embobiner.
Édition spéciale. Cette personne assassinée dans un garage. On craint des représailles. Édition spéciale.
Ça y est, tu m'as encore eu. En route, Joséphine.
Une chic fille, Géraldine.
Donc là, voilà. Oui, effectivement, là, c'est le début. On les compare en travestis.
C'est ça.
Et effectivement, ils remarquent tout de suite Marilyn, forcément. De toute façon, dans le film, on ne voit qu'elle. Hein. Moi, enfin, je vois pas comment on peut faire autrement.
On peut difficilement la louper, oui.
Donc voilà. Après, moi, je sais pas. Je pense que Bruce, c'est ton premier Marilyn. Dis-nous tout le bien que t'en as pensé, naturellement.
Bah, effectivement, ouais, mon premier Marilyn. Film en noir et blanc, très bien tourné, avec des très bien contrasté aussi. C'est pas du noir et blanc baveux, crachouillard, comme certains qui ont mal vieilli. Et la bande son aussi est magnifique, avec de belles musiques. L'histoire, c'est vrai que c'est une comédie, donc. J'ai été vraiment emballé dans l'histoire. En plus de ça, il y a pas mal de rebondissements parce qu'on se demande comment ils vont faire pour pas qu'on sache que c'est des travestis, comment ils vont pouvoir échapper justement aux gangsters qui veulent les tuer.
Donc, alors si je peux me permettre juste une petite parenthèse, pendant tout le film, je me suis demandé, alors je sais pas si vous vous êtes demandé aussi, est-ce que Marilyn est dupe ou pas de la situation?
Non, je pense pas.
Sur la plage qu'elle le reconnaisse en fait et puis qu'elle joue le jeu.
Ouais, moi je sais pas, je me demande si vraiment parce qu'en fait elle trouve un intérêt en tout cas, ils trouvent des intérêts en commun, dans le sens où Jack Lemmon, il me semble, c'est Jack Lemmon qui la couvre pour la petite flasque qui tombe quand elle chante.
Oui, c'est ça.
Et du coup, je pense que le contrat, il est là.
Ouais, mais je sais pas parce que regarde, sans dévoiler la fin, mais à la fin, quand même, elle a l'air d'être surprise.
En fait, elle est pas surprise que ça soit un homme. Je pense qu'elle avait repéré. Elle est surprise de sa réaction.
Ouais, je l'ai pas vu comme ça.
C'est quand Tony Curtis vient l'embrasser quand elle a fini de chanter. Elle n'est pas très étonnée finalement.
Alors, est-ce que Joséphine à virer sa cutie, ou est-ce qu'en effet elle le reconnaît et elle pensait pas, parce qu'à juste avant il lui dit au revoir quand même.
Du fait oui. qu'elle l'avait embrassé quand ils étaient sur le yacht.
Oui, mais parce que bon, c'est vrai qu'il y a tout. Bon, on peut raconter le passage où en effet il l'invite sur le yacht, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas encore une fois, et je trouve que là Tony Curtis est vraiment très fort, parce qu'on parle de Jack Lemmon, moi il me fait hurler de rire à chaque fois qu'il ouvre la bouche, mais Tony Curtis est excellent quand il joue le Gary Grant sur le bateau, quoi, parce que pour moi c'est Gary Grant.
Évidemment, c'est un gentleman.
Oh, c'est autre chose, c'est que je suis inoffensif.
Inoffensif, comment ça?
Eh bien, c'est dur à expliquer, mais je ne sais quoi avec les femmes.
Quoi donc?
Elle me laisse froid, en quelque sorte.
En somme, vous êtes frigide.
Ce serait plutôt une barrage mentale.
Et quand on pense que Gary Grant était gay et que son petit copain s'appelait Randolph Scott, on comprend plein de choses.
Ah oui.
Donc voilà, après... Donc c'était juste pour la petite parenthèse, pour me dire, bah en fait Marilyn, je pense qu'elle est pas dupe, elle sait où est son intérêt et que finalement elle s'en moque un peu, quoi. Du coup.
Je sais pas, parce que il arrive à bien jouer le jeu, parce qu'à un moment donné, Tony Curtis il joue deux personnages, donc il joue et Joséphine et Junior.
Shell Junior.
Ouais. Et du coup, pour pas se faire griller, il arrive à presque dans le même temps à être les deux à incarner les deux personnages.
Mais c'est sûr que ce film est un film de schizophrène.
Je pense qu'il joue aussi sur la crédulité de Marilyn, pensant qu'elle y verra que du feu, mais est-ce qu'elle le sait vraiment? Je sais pas.
Ça, c'est comme dans le wagon, là, où, en fait, t'as Jack Lemmon qui dit, bah, moi, déjà tout petit, je rêvais qu'on m'enferme gamin dans une pâtisserie avec plein de gâteaux. Donc là, il se retrouve enfermé dans un train avec plein de filles. Mm-hmm. Et du coup, Tony Curtis lui dit, non, mais là, t'es une fille, tu restes une fille. Pas de ça. Et du coup, il se répète inlassablement du train, qui est très bien fait d'ailleurs cette scène-là, où comme un mantra, il récite « Je suis une fille, je suis une fille, je suis I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl » au rythme du train, tu vois. Et en fait, il commence à se transformer là, mine de rien, parce que pour moi, Jack Lemmon, enfin le personnage qu'incarne Jack Lemmon, est en fait un homosexuel refoulé.
Ouais, mais je pense aussi qu'il fait ça pour pas sauter aussi sur les filles, parce que je pense que il a envie de s'en faire quelques-unes.
Je suis pas sûr justement. Je pense qu'en effet il se découvre, parce que dans le film ils se découvrent tous en fait qui ils sont vraiment, parce oui. que Marilyn avait épousé un milliardaire, un rêve c'est d'épouser un milliardaire avec un yacht, mais en réalité elle s'en fout, elle veut un saxophoniste.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, c'est ça. Et donc en fait ils ont tous leurs aspirations. Enfin, il me semble, de mon point de vue. Et du coup, comme ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils veulent, bah, ils sont obligés de changer. Et du coup, Jack Lemmon, lui, va décider de changer de bord pour avoir la sécurité, comme il dit. Je ne sais pas ce que tu en penses, Blood.
C'est parce que...
J'avais jamais vu le film sous cet angle. Pourquoi?
Et donc, vous êtes obligé de le revoir, du coup, maintenant.
Ouais.
Bah, peut-être qu'en le revoyant, ouais, mais après, c'est plus pour ne pas, c'est plus pour ne pas se faire griller de sa couverture aussi, je pense.
Bah, c'est-à-dire que en gros, c'est un peu comme chez Fritz Lang. Billy Wilder, il a un double scénario. Mm-hmm. Puisqu'il a un peu la même trajectoire, je l'ai dit au début du
mission. Ouais.
Mmh. Donc t'as la trame classique, hein, où en fait t'as deux potes qui essayent d'échapper aux mafieux en se travestissant dans un groupe de musiciennes, et en fait voilà, on peut le voir comme ça, mais on peut le voir aussi autrement, et quand tu regardes qu'en effet à l'époque du code de censure, tu pouvais pas parler de choses comme ça librement, donc t'es obligé de faire des clins d'œil, des allusions, tu vois, des ellipses. Et donc ce film en est bourré. Je veux dire, je pourrais faire une liste, Moi, je préfère là, mais... vous laisser la surprise.
Non, bien sûr. Bah, écoute, je vais le regarder une deuxième fois en ayant ça dans la tête et je te dirai.
Bah, écoute, tu me diras. Et si on et Blood, faisait... on n'a pas trop entendu Blood.
Oui, du coup, là, ça me fait repenser, ça n'a rien à voir du coup avec Tutsi, où là, par exemple, Dustin Hoffman est obligé de se déguiser pour choper du boulot.
Oui, effectivement, ça
reviendrait presque à ça, mais ça...
Oui, ça fait écho. Hein. Il y a plein de films sur les travestis hein, à l'écran.
Parce que là, la Madame Jack Lemmon, donc il est content parce qu'il va épouser donc le milliardaire.
Oui, mais personne n'est parfait. Hein.
C'est ça. mais le truc, c'est que...
C'est quand même la réplique culte. Hein.
Oui.
Ça, c'est comme
Atmosphère.
Ou Bizarre, vous avez dit Bizarre. Hein. C'est la même chose. Hein.
Mm-hmm.
C'est vraiment, pour moi, la réplique qui tue quoi, à la fin, la réplique finale. Bon, même si on dévoile un peu la fin, c'est pas bien grave. Hein. Parce que les gens, soit l'ont vu, soit ils veulent le revoir, ou en fait, ils l'avaient pas vu comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de partager les impressions des uns et des autres.
C'est ça.
Il y a aussi une phrase que j'aime bien, quand Marilyn arrive avec la bicyclette, puis qu'elle s'excuse auprès de Tony Curtis. Je pense que tu as peut-être un autre extrait, non, Bruce?
Bah, j'en ai, mais pas sur ce que tu dis, là.
C'est-à-dire qu'elle développe, parce que
c'est quand il lui donne rendez-vous, donc comme il fait croire qu'il doit partir pour quel pays déjà? L'Argentine, je crois, non?
Ouais, c'est ça.
Et donc, il lui a offert les fleurs, je crois, et donc elle va le rejoindre. Et puis comme elle s'excuse donc de l'avoir fait attendre, et lui dit ce n'est pas non, l'important ce n'est pas l'attente mais celle qu'on attend.
Oui, exact. Et d'ailleurs après ils prennent l'embarcation, le petit canot là.
Ah bah là je me suis trompé, c'est quand il lui donne rendez-vous pour la soirée là.
C'est ça. Exactement. Et du coup, après, ils prennent le canot et bizarrement, le canot, il n'arrive pas à le... Alors, est-ce que vous avez une petite idée là-dessus? Pourquoi Billy Wilder nous montre un Tony Curtis désemparé, désœuvré, incapable de conduire un canot dans le bon sens? Il est obligé de faire marche arrière tout le temps.
Oui, il le fait marche arrière, ouais.
Il arrive dans le yacht, il sait pas où aller, il se gourre, il pense que c'est la cabine, il se retrouve avec un débarras.
Il est perdu.
Il est complètement perdu, quoi. Et c'est Sugarcane qui lui explique un peu où se trouve tout ça. Donc, je trouve que là, il y a du lourd à dire, non?
Ouais, c'est elle un peu qui prend le dessus. Et puis, même à un moment donné, il fait comprendre qu'il ressent pas grand chose pour les femmes. Est-ce que c'est un moyen de l'aborder et puis qu'il se passe quelque chose entre eux, ou alors est-ce qu'il lui avoue quelque chose? On a du mal à savoir.
Oui, il lui fait croire qu'il a perdu un grand amour il y a plusieurs années.
Ouais.
Et que depuis, il n'aime plus personne.
Bah, ça fait écho aussi au riche milliardaire qui a eu pas mal de femmes dans sa vie, mais à chaque fois, ça s'est conclu par soit une séparation, soit au rien du tout, à cause de sa mère, souvent. Et le fait est qu'a priori, il jette son dévolu sur Jack Lemmon, hein, quand il la voit arriver comme ça, avec la contrebasse, le ukulélé dans les bras, les valises et tout, en disant, tiens, voilà une femme forte, c'est ça qu'il me faut. En fait, on sait pas trop s'il a pas, lui non plus n'est pas dupe, du coup.
Ouais. Il n'est pas très jeune, hein, plus que milliardaire.
Ah non, il n'est pas très jeune. C'est pour ça que je pense que Jack Lemmon fonce en se disant que de toute façon, il en a plus pour longtemps.
Ce qui me fait rire, moi, c'est quand il dit j'en parlerai à maman.
Ouais.
J'imagine l'âge de la mère.
Non, moi, ce qui m'a bien fait marrer aussi, c'est quand il danse. Parce qu'il y a justement Jack Lemmon qui danse avec Joe Brown.
Ouais. Osgood.
Ouais, et tu vois qu'en fait, il kiffe, quoi.
Ah non, mais là, il kiffe. D'ailleurs, en rentrant de la soirée, il est à fond. Toujours avec ses maracas dans le lit. Il s'est pas changé.
Non, mais
il reste une femme, en fait.
Il reste une femme, ouais. Et d'ailleurs,
là, du coup, là, on sent qu'effectivement, ouais. Il a pris goût. Il a complètement changé. Il s'est métamorphosé. C'est Cendrillon, là.
Exactement. Mais ça, c'est...
Tu vois, il a raté minuit, là.
Et ces passages-là, ils m'ont bien fait marrer, par contre.
Ah non, mais là, c'est excellent. Enfin, après, moi, je sais pas quoi dire de plus que allez-y, foncez. Ouais. De toute façon, quand t'entends Marilyn chanter, déjà, tu peux pas faire autre chose. C'est impossible. Hein, Blood?
Donc, oui, à voir en sous-titré, alors.
Bah, à moins que tu maîtrises l'anglais.
Non, je préfère en sous-titrer, c'est plus sûr.
D'accord. Mais tu sais, quand tu l'auras vu 10 fois, tu n'auras plus besoin du sous-titre.
Non, voilà.
Oui, après, je connais les dialogues par cœur.
Et tu pourras même chanter. Moi, ça m'a donné envie de revoir tous les films qu'a fait Jack Lemmon avec Billy Wilder. Bah, parce que c'est quand même son premier.
Ils vont quand même faire la garçonnière.
Voilà, ils vont quand même faire 7 films ensemble, ce qui n'est pas rien. Hein.
Mais c'est sûr que quand on voit un comme ça, ça fait effet boule de neige après. Tu reprends les acteurs principaux et le réalisateur et tu te refais après la filmo de tout ce monde-là. Quoi.
Ce qui est amusant, c'est que Tony Curtis et puis Jack Lemmon, ils ont joué ensemble dans la grande course autour du monde de Blake Edwards.
Exact. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus drôle, c'est ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à au Cannonball.
Oui, dans l'équipée du Cannonball. Un film avec Burt Reynolds. Donc, à un moment donné, dans le film, justement, il dit « Personne n'est parfait, nobody's perfect ». Et comme par hasard, donc, ça fait un clin d'œil à certains Lem Show.
Donc, on peut dire que c'est quand même un film qui a marqué... qui a marqué de son empreinte le cinéma, quoi.
Et dans le film, c'est dit, alors j'ai vu la VF, hein, mais il le dit en VF et en VO. Faudrait le voir en VO, Cannonball, pour pouvoir savoir comment c'est dit.
En VO, le truc qui est étrange, c'est que la durée du film n'est pas la même.
Ah ouais?
Et donc, l'équipée du Cannonball, donc c'est un film de 1981 réalisé par Al Needham. Donc c'est un film. Donc on parle maintenant d'un autre film. Après on va peut-être revenir sur certains Lem Show. Hein. Ça fait une petite parenthèse. Mm-hmm. Donc c'est Burt Reynolds donc qui joue le rôle de Gigi McClure. Il fait un aventurier. Il décide de faire une course de voiture illégale avec son ami mécanicien Victor Prinzim, donc joué par Dom DeLuise. Et donc, Burt Reynolds donc, essaye de réfléchir comment il va pouvoir camoufler, pour gagner cette course illégale, donc sans se faire prendre par la police. Et donc, il décide de prendre une ambulance, de camoufler ça pour pouvoir passer tranquillement sans se faire prendre par la police. C'est un scénario de Brock Yates. Et donc, le réalisateur, Neil Dinham, c'est celui qui a fait aussi Cours après moi, shérif.
Ouais, toujours avec Burt Reynolds.
Exact.
Smokey and the Bandit.
Ouais, c'est ça. Mais en plus, il n'y a pas que Burt Reynolds hein, de super connu.
Il y a Jackie Chan qui joue son propre rôle. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il joue un japonais dans le film, alors qu'il n'est pas japonais.
Oui.
Ouais, mais à l'époque, il n'était pas connu.
Non, c'est son premier film, je crois.
Ouais, c'est ça.
Il y a Farrah Fawcett que Mr. Eddie aime bien.
Exact, oui.
Mr. Freddy, s'il te plaît.
Ah,
Mister Eddie, c'est quelqu'un d'autre.
Eddie, si tu nous écoutes, hein. C'est pas la dernière séance. Hein.
Ouais, d'ailleurs, je tiens en effet à quand même à le saluer s'il nous écoute. On sait jamais. C'est vrai que la dernière séance nous a bien aussi.
Les westerns et tout ça.
nous a bien mis le pied à l'étrier pour les westerns et pour d'autres films.
Ouais, ça a bien alimenté notre.
Exactement.
Notre amour du cinéma.
Et c'est pour ça que je voulais aussi rendre hommage aujourd'hui à Agnès Varda qui nous a quittés. Et sinon, pour revenir à donc au Cannonball, moi je l'ai pas vu. Tu m'as donné envie de le voir. Donc
C'est une comédie. Hein. Donc au départ, apparemment, c'était prévu pour Steve McQueen le rôle, mais comme il est mort malheureusement, donc c'est Burt Reynolds qui a récupéré le rôle de Steve McQueen. Et le scénario a été donc revisité pour que ça fasse un peu plus orienté en comédie. Donc j'imagine que si ça était avec Steve McQueen, ça aurait été plus dans une ambiance un peu comme Bullitt, je pense.
Ouais, parce que il faut dire que le Cannonball, c'était vraiment des courses illégales qui, dans les années 70 aux États-Unis, ça consistait à relier l'Est à l'Ouest, et fallait faire le plus rapidement possible. Alors, ça m'étonne pas que, si ça se trouve, s'il y avait eu Steve McQueen, mais il me semble qu'il y a, il y a eu un film que j'ai pas vu, Cannonball, je crois que c'était avec Carradine, il me semble, dedans. Mais
Il y a Steve Martin hein, aussi dans le film.
Il doit être de 77 et je crois que ça fait une suite à Cannonball, mais côté comédie quoi. Mais il y a des belles bagnoles dedans quand même. Hein.
D'accord. Mais il n'y a pas eu de série comme Corps après moi shérif par contre.
Non. Il y a eu un deuxième Cannonball.
Je sais pas s'il y en a pas. Ah non, je confonds avec le shérif, oui, il n'y en a que deux.
Bah ça, à la limite, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission de thématique avec les courses-poursuites. Je ne sais pas, apparemment, ça a l'air d'être votre truc.
Ouais, j'aime bien, mais...
Du coup, je sais pas, il y a beaucoup de films où, en fait, on voit des voitures à l'écran, non?
Oui, là, il y a une Lamborghini Contact, il y a une Ferrari, il y a une Rolls, enfin, il y a différents modèles.
Oui, il y a des grosses cylindrées.
Avec des bonnes scènes amusantes.
Ok. Et du coup, donc vous l'avez vu naturellement en VF, c'est ça?
Oui, en VF, oui.
Bah ouais.
D'accord.
Ce qui est bien, c'est avec les deux filles, avec la Lamborghini.
Oui.
Si t'as pas vu le film, rien que pour ça.
Bon, je vais regarder.
On te laisse la surprise.
D'accord. Et
Roger Moore qui se moque de lui-même.
Et Roger Moore donc qui est doublé par la voix de Sean Connery. Et Roger Moore là, il joue le rôle de Moore. Oui, il s'appelle Seymour. Et c'est amusant parce qu'il conduit la voiture de James Bond.
Oui, forcément. En plus, avec sa voix. En plus. Voilà, c'est pas sa voix à lui, mais la voix.
La voix de Sean Connery, c'est ça qui est
du premier James Bond à l'écran. Quoi.
Oui, oui.
C'est ça.
D'accord. Bah écoute, moi, je sais pas, mais je pense que je vais le voir en VO si je dois le regarder. Donc, je pense que là, du coup, je le verrai pas. Enfin, je l'entendrai pas. Forcément.
Je peux te passer un petit truc si tu veux pour te faire un petit aperçu.
Allez.
Allez.
Je vous préviens, je suis Roger Moore.
Qui ?
Roger Moore.
D'accord. Ah oui, en effet, on sent bien le côté Sean Connery dans Roger Moore.
Oui.
T'as pas l'inverse ?
Non.
Bon, en tout cas, je vais essayer de voir ça.
Dans le film, il y a un mec qui est contre ça, tu vois, et il cherche à les faire, à être attrapé, quoi.
Ah oui, il est avec la police, ouais. Il veut à tout prix qu'ils arrêtent la course.
Contrôler les voitures.
Mais là, du coup, on est quoi ? C'est en 81, là ?
81, oui.
C'est-à-dire que là, on est sorti de l'âge d'or d'Hollywood. On est même sorti du nouvel Hollywood. On est en plein, c'est quoi les années 80 pour vous ? 80-90 ?
Ouais, 80, ça y est, t'es dans le...
C'est les effets spéciaux, là. C'est un peu les films super-héros, oh, fantastiques.
Oh, puis il y a quand même tous les Police Academy, après, quand même. Tout...
Parce que là, on n'est pas loin du mythe du super-héros, du coup, là. Où on brave la police, on est plus fort que tout, etc. Non, c'est ça, l'idée.
Bah, ouais, mais il bah, y a... Comment il s'appelle, déjà? Captain K.O.
C'est le mécanicien, quand il d'un seul coup, il...
Mais il se transforme.
Il est en train de conduire, puis d'un seul coup, il a sa cape et puis son masque. De
voir. Mais d'un coup, quoi.
C'est marrant.
Mais c'est une comédie burlesque, en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment de sens.
Ah oui, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Hein.
Bah, si, justement. Hein.
Tiens, en parlant du capitaine, allez, je vais te le passer.
Hey, vous avez eu de la chance, je veux dire, quand on voit l'état du bateau.
Vas-tu bien, Victor ?
Oh, je vais bien, Gigi. J'étais à un doigt de la mort. Tu sais, je pense tout de même qu'il vaudrait mieux que tu ne tournes pas la tête chaque fois que tu vois une fille.
Oui, personne n'est parfait.
C'est vrai. Nobody is perfect. À part le capitaine.
Ah, voilà.
Ah bah, tu vois, tu as retrouvé donc le fameux extrait.
Ouais, c'est super. Et donc là, du coup, tout de suite, effectivement, ça fait référence au film. On l'imagine. À part le super-héros dont on parlait tout à l'heure.
Oui.
Où, en effet, on se dit, bah, personne n'est parfait, dans le sens où, voilà, quand on revient sur certains même shows, qu'est-ce que ça veut dire, du coup? Ça veut dire qu'effectivement, pour être quelqu'un d'autre, en gros, c'est une métaphore sur le jeu d'acteur, en fait, hein, vous l'avez compris, bien sûr. Donc, jouer, être quelqu'un d'autre pour les autres.
Mmh.
Pour moi, ça renvoie au jeu d'acteur.
C'est ça le docteur. Ouais, c'est tout à fait.
C'est ça, voilà. Donc, ce film, on peut le voir de différentes manières. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait sa richesse. Et je pense que, bah, du coup, vous le reverrez, j'espère, différemment, ou le verrez pour la première fois différemment.
Ouais. Mais je l'avais pas vu comme ça. Ouais.
Ça fait même à ce moment-là aussi penser à Victor Victoria.
Oui, mais alors là, c'est encore. Comment
c'est encore peu... autre chose, oui.
Alors. C'est Black Edwards, déjà, j'adore. Mais en plus, c'est... Alors, si je m'en rappelle bien le film, c'est que c'est une femme qui joue un travesti.
Voilà.
Donc, en fait, elle joue le rôle d'un homme. Mais elle se travestit pas, elle joue le rôle d'un homme qui se travestit en femme.
Voilà, pour le spectacle, oui.
Pour le spectacle. Donc, on pense que c'est un homme qui s'est travesti en femme alors que c'est une femme. C'est ça l'idée.
Ouais, d'accord. Hein. Ouais. Ouais, je l'ai pas vu.
Donc et tu faisais tout à l'heure référence à Mary Poppins, où en effet, c'est la même actrice.
Exact. Puis c'est elle qui chante en plus.
Et ouais. Et donc son nom, c'est quand même
Blaudoug.
Ah, pardon, ça ne me revient pas.
Bon, bah, là, on va couper. Hein.
C'est pas Julie Andrew ?
Si, c'est Julie Andrew.
Oui, voilà, oui. Pourquoi j'ai pensé à Christy ? Il n'y a pas un film où elle s'appelle Christy, peut-être
Je connais Christine avec la voiture, mais...
Mais je ne connais pas toute sa filmographie. Mais probablement. Donc, en effet, il y a beaucoup de films qui font référence au travestissement. Mais je pense que là, le peu de films que j'ai vus, en tout cas, c'était souvent des situations, on va dire, c'était des mises en situation, c'est-à-dire, bah voilà, des situations comiques où en fait on joue sur l'incertitude, l'ambiguïté, alors que dans le film de Billy Wilder, il y a autre chose, il y a un autre discours, quoi. C'est pas que ça, il y a ça, mais il y a pas que ça.
Oui, parce que tu peux te travestir sans avoir, comment dire. La psychologie du personnage, c'est ça, c'est un homme qui se travestit en femme, il le fait juste
oui,
comme ça,
mais
il
est pas, dans tout petit.
Il est pas gay pour autant. Quoi.
Oui, oui. Et souvent, d'ailleurs, souvent il se travestit, c'est pour mieux conquérir la femme de son cœur, pour mieux se rapprocher.
Oui.
Souvent, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, c'est ce que fait, Joséphine avec Sugar Cane, en fait.
Ouais.
Puisque du coup, bah, comme il est proche, ils se font des confidences et elle lui dit que son idéal féminin, c'est un joueur de saxophoniste.
C'est vrai que c'est plus facile pour lui, après, sachant ça, de la draguer, quoi.
Bah, disons que bah, forcément, il a toutes les cartes en main.
Ah bah oui, ouais. Puisqu'elle s'est un peu confiée à lui.
C'est-à-dire que ça renvoie un peu aussi au jour sans fin, sauf que là, bah, pas besoin de se travestir, mais comme il rejoue à chaque fois la même journée, à chaque fois, il peut corriger.
Oui, c'est vrai.
Sauf que là, oui, du coup, il ne se dédise pas, il n'y a pas besoin.
Voilà. C'est vrai qu'un jour sans fin, c'est un film. C'est fabuleux, quoi.
Y a pas
bon, il y a plein de films.
À voir sans fin.
Qu'est-ce que tu disais ?
Il n'y a pas un jour qui se passe où je dis si jamais aujourd'hui ça fait un jour sans fin, bah, tu sauras qu'il se passe ça et ça.
Donc en tout cas, moi, j'ai été ravi de le revoir et d'en parler surtout.
Ouais, moi j'ai pris plaisir à le regarder. Et je le regarderai une autre fois.
Et Blood, tu l'avais vu, tu l'avais déjà vu, non ?
La septième fois, je pense que je le voyais.
Ah bah ça va, t'as encore de la marge.
Et ce que j'aime bien, c'est que après, une fois qu'ils ont réussi à se sauver de la mafia, on n'en entend plus parler d'eux, vu qu'après ils sont travestis. Il faut attendre vraiment la fin du film pour d'un seul coup, le hasard fait que les mafieux reviennent.
Ouais, lors de la convention de mafieux là, en Floride.
Oui.
Ouais. Mais c'est vrai que ouais, il y a plein de scènes. Enfin bon, j'aurais pas à revenir sur les détails, mais encore une fois, quand ils veulent échapper aux mafieux, parce qu'ils en fait, contrairement aux filles, les mafieux ont tout de suite repéré le subterfuge.
Oui.
Et du coup, ils s'échappent en se retravestissant en garçon pour le coup. Sauf que
les chaussures.
Sauf qu'en effet, il est encore question de chaussures, là, qui trahit fortement Jack Lemmon, décidément, Daphné, qui veut pas du tout quitter sa seconde nature.
Ah oui, oui, oui.
Oui, c'est plus fort qu'elle, enfin que lui, pardon.
Mais si tu veux, une autre petite anecdote aussi que j'avais vue par rapport au maquillage de Lemmon et Curtis. C'est que pour s'assurer de la qualité du maquillage des deux comédiens, Billy Wilder, il a demandé justement à Lemmon et Curtis d'aller travesti en femme, se repoudrer dans les toilettes du studio. Et apparemment, personne de l'agente féminine n'a remarqué que c'était des hommes.
Ça, c'est comme quand Daphné dit à Joséphine « J'ai l'impression que tout le monde me regarde ». Et Joséphine lui dit tu plaisantes avec tes jambes.
Oui. Allez, tiens, on se met la Marilyn dans les oreilles.
Allez.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Poop-poop-pee-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I wanna be loved by you. Diddly 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 dum, boop boop doop.
Et voilà, ça fait du bien.
Ouais, et je savais même pas que c'était dans ce film-là, tu te rends compte?
Et comme quoi, on en apprend tous les jours.
Exactement. Mais on est là pour ça, et le podcast est là pour ça.
Voilà, je pense qu'on a rempli le contrat, là. Hein.
Oui. De toute façon, on ne va pas en dire plus, parce que après, ça serait carrément dévoiler le film, trop spoiler.
Je pense qu'on en a dit pas suffisamment.
Oui, pour donner et envie de le voir ou de le revoir.
Ok.
Bonne nuit. On va se dire dans un mois.
Peut-être.
Voilà.
N'oubliez pas de regarder.
Allez, ciao à tous.
Et oui, puis, oui, pas de souci, je regarde des films tous les jours, quasiment.
Je ne à bientôt. Sans.
À bientôt.
Ciao.
Ciao.
Personne n'est parfait.